Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mais qu'est-il arrivé à François Bayrou ? La dette mondiale explose, mais le président du Modem ne semble plus s'en émouvoir. Sur son compte Twitter, en tout cas, il n'est fait aucune mention du rapport, pourtant détonnant, publié par le FMI la semaine dernière. On y apprend que la dette publique et privée n'a jamais été aussi élevée dans le monde. 152 000 milliards de dollars fin 2015, deux fois et demi la richesse mondiale. Alors bien entendu, ça ne signifie pas que l'ancien candidat à la présidentielle se désintéresse de ce sujet, mais le fait qu'il ne s'en empare pas immédiatement et publiquement est sans doute symptomatique du changement de statut médiatique de cette question de l'endettement. En 2007, en 2012, c'était un des thèmes majeurs du débat politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La France est pourtant sur le point de dépasser un seuil fatidique en la matière. Au deuxième trimestre 2016, la dette publique représentait 98,4% du produit intérieur brut, bien au-delà de la règle des 60% décrétée par l'Union européenne en 2011. Mais il est vrai que depuis, l'argent est devenu bon marché, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, s'endetter est devenu facile. Facile, mais pas forcément sans risque. Que se passera-t-il lorsque les taux remonteront? Et qui se soucie encore de la dette? Eh bien, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec trois invités. Denis Ferrand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur général du cabinet CEORECCECODE, qui est un institut d'études économiques. Pour discuter avec vous, Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques. Dans le dernier numéro d'octobre, vous signez votre édito « Attention, danger », enfin ça c'est le titre, le danger ce serait celui d'une explosion de la dette si jamais la droite revient au pouvoir. Il faut lire évidemment en détail votre édito. Je précise par ailleurs que vous avez publié aux éditions La Découverte l'an dernier « La France ne sera jamais plus une grande puissance, tant mieux !» Point d'exclamation. Troisième invité, Benjamin Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez publié cette année aux éditions La Découverte, là aussi, L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché. Vous essayez notamment de comprendre comment la dette publique a réussi à s'imposer dans le débat. Alors, nous, on est plutôt parti du constat inverse, mais il faut dire que votre travail a été mené sur de longues années, Benjamin Lemoine. On avait plutôt l'impression que, au contraire, cette question de la dette, après avoir été assez omniprésente dans les médias et dans le débat politique, avait fini par s'effacer un petit peu. D'abord, est-ce que vous faites le même constat d'une dette qui ne serait plus, en tout cas, un sujet majeur de préoccupation aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire que en 2005 et les campagnes précédentes politiques, 2007 et 2012, elle était très haut placée dans l'agenda. Elle était là en permanence, elle s'invitait sur les plateaux de télévision. Vous avez évoqué François Bayrou, mais on le sommait de réagir face à un compteur de la dette qui ne cessait de s'emballer. On lui demandait des solutions immédiates qu'il fallait qu'il trouve sur le plateau. Effectivement, comparé à cet état du débat public, force est de constater que, disons que le débat a muté, il s'est transformé. Hein, mais parce qu'entre-temps, on a eu toute une série d'événements majeurs. On a eu des menaces de défauts souverains sur la Grèce. On a eu toute une série de remises en cause des politiques monétaires poursuivies par la BCE. Et ce qui est la question, je pense, qui reste, hein, c'est celle de est-ce que l'État est-il dépendant des marchés financiers au moment d'envisager ces politiques publiques? Et je pense que cette question, elle n'a pas été effacée totalement du débat et elle demeurera un enjeu dans l'avenir car ces taux négatifs restent une donnée fragile et ils peuvent changer. Hein. Certains anticipent dès à présent une hausse de taux, un choc de taux qui pourrait remettre en cause cette douce tranquillité du débat vis-à-vis de la dette publique.
Et ça va être justement un des sujets de notre discussion de ce soir. Mais pour poursuivre notre tour de table sur cette dette qui aurait fini par s'effacer, non pas en tant que telle, mais médiatiquement, Denis Ferrand.
Oui, effectivement, elle ne s'est pas effacée. En revanche, elle est beaucoup moins dans les radars du discours. On parlait de 2005. 2005, c'est aussi l'année du rapport Pébro. On peut dire que dans les 15 dernières années, il y a eu deux rapports qui ont fait du bruit. C'est le rapport Pébro et le rapport Gallois. Le rapport Gallois sur le thème de la compétitivité, notamment de l'industrie. Le rapport Pébro, c'était le thème de la dette qui était véritablement en question dans ce rapport. Et depuis ce rapport, donc avec une alarme assez forte sur l'évolution de la dette, avec ce risque d'arriver à 100 points de PIB, 100 points de richesse produite chaque année en termes de dette publique, on parle bien de dette publique ici, malgré ce rapport, eh bien, on se rend compte que finalement, on y va vers ce 100 points de PIB. On n'en est plus très loin, on l'atteindra peut-être en 2017. Mais
alors, on est un peu plus de 98%. Bon,
hein, on s'en approche. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que depuis le rapport Pébro, eh bien, la dette ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait en 2005 parce que les taux d'intérêt ont chuté.
Alors justement, pour se souvenir peut-être de la façon dont était présenté à l'époque, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le rapport Pébro, écoutez la façon dont le présentait le présentateur du journal d'Intersoir. Nous sommes le 14 décembre 2005.
1117 milliards d'euros. Ce chiffre astronomique qui circulait déjà depuis quelques jours, c'est l'évaluation de la dette publique de la France, présentée aujourd'hui par un banquier de renom, Michel Pébro, le président de BNP Paribas. Nous sommes le pays d'Europe dont le rapport de dette publique s'est le plus accru ces 10 dernières années, note la commission Pébro. Voilà pour le constat avec une critique. Le choix de la facilité depuis 25 ans est la principale explication de ce niveau très préoccupant, dit encore Michel Pébro.
Voilà, un peu plus de 1100 milliards d'euros de dette en 2005. Ça a doublé depuis Guillaume Duval. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne fait plus la une de l'actualité. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Il y a d'une part des explications rationnelles malgré tout. Hein. Donc, à l'époque, les intérêts sur la dette coûtaient à l'État en gros 3%, 3 points de PIB. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 du fait de la baisse des taux d'intérêt. Donc, la pression effective est plutôt moindre, même si le niveau de la dette a continué à monter du fait donc de cette baisse drastique des taux d'intérêt. Mais c'est vrai que au-delà de ça, ce qui est très impressionnant, c'est le changement de discours à droite. Sur cette question-là, parce que François Hollande a fait ce qu'il avait dit, il a considéré que la baisse des déficits était un sujet sérieux et qu'il fallait l'attaquer. Il s'est pas très bien débrouillé pour le faire, on y reviendra si vous voulez, mais en tout cas depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il a été très constant là-dessus. Ce qui est étonnant et très surprenant aujourd'hui, c'est de voir le discours de la droite. Vous citiez François Bayrou, mais c'est pas forcément le plus intéressant dans le débat.
Non, je pense à lui parce que c'est celui en tout cas qui avait vraiment porté sur le devant de la scène médiatique cette question de la dette à l'époque.
Oui, mais il y a quelqu'un aussi qui l'avait porté très haut, très fort, c'était François Fillon qui voulait imposer à Nicolas Sarkozy de faire de l'austérité dès 2008-2009.
Il disait même que l'État est en faillite
à
l'époque.
Il disait à l'époque l'État est en faillite et aujourd'hui c'est lui, mais ses confrères de la primaire de droite sont sur la même ligne en fait, mais lui au moins il assume clairement l'idée que le programme qu'il défend pour l'an prochain, c'est de dépasser les 3% du PIB et que la dette, il s'en fout. C'est plus son problème. Et ça, c'est vraiment très, très surprenant comme retournement. Et je pense que effectivement, si la droite arrive au pouvoir sur la base des programmes qui sont en discussion aujourd'hui dans le cadre de la primaire, on va vers une explosion de la dette et son retour sur le débat public, y compris son retour sur le débat public à travers la défiance croissante des investisseurs.
Encore un mot, Guillaume Duval. Ce retournement-là, vous considérez qu'il est opéré à juste titre, c'est-à-dire que finalement les candidats de la droite ont raison aujourd'hui ou bien ils avaient davantage raison hier?
Oh, les candidats de la droite ont toujours tenu des discours très raisonnables sur l'économie, mais la droite, quand elle a été au pouvoir, elle a toujours préféré faire exploser la dette publique, parce que laisser exploser la dette publique, c'est une politique qui consiste à préférer emprunter de l'argent aux riches plutôt que leur faire payer des impôts. Et ça, c'est une politique très traditionnelle de la droite. C'était la politique de M. Balladur, c'était la politique de M. Sarkozy. Ça a toujours le seul qui ait fait baisser le taux d'endettement de la France sur les 25 dernières années, c'est Lionel Jospin. Il faut s'en souvenir.
Voilà, mais ça n'aura pas été le cas, enfin en tout cas a priori, de François Hollande non plus. Moi j'ai une autre hypothèse à vous soumettre. Peut-être que si on est un peu moins effrayé par le niveau de la dette, alors que ce niveau est beaucoup plus important qu'il y a par exemple une dizaine d'années, Denis Ferrand, c'est peut-être parce que ça n'est pas si grave que ça d'avoir un niveau important de dette.
Alors, en fait, il ne faut jamais regarder la dette seule. Une dette n'est qu'un des éléments d'un compte de bilan. C'est quelque chose qui intervient au passif. Et ce qui est important, c'est de regarder ce que l'on met en actif, en face. Qu'est-ce que l'on constitue? À quoi sert cette dette? Est-ce qu'elle accumule? Est-ce qu'elle permet d'accumuler des avoirs? Et quand on regarde, alors, c'est une mesure qui est imparfaite, mais quand on regarde la manière dont l'INSEE peut évaluer aujourd'hui le patrimoine des administrations publiques, eh bien, on se rend compte que la dette nette, elle est positive. Enfin, elle est positive. On a encore plus d'actifs qu'il n'y a de dettes accumulées par les administrations publiques. Donc, a priori, c'est un tableau qui est favorable. Mais pour reprendre justement le point par rapport à la date du rapport Pébro, 2005, quand on regarde la situation entre 2005 et aujourd'hui, la manière dont elle a évolué, en 2005, les actifs que l'on avait accumulés correspondaient, les actifs minorés de la dette représentaient 52% du PIB. Aujourd'hui, on est à peu près à 11% du PIB. Donc l'augmentation du poids de la dette qui est intervenue au cours des 10 dernières années n'a pas eu pour contrepartie une accumulation d'actifs. Et c'est ça qui doit aujourd'hui nous interroger. On est toujours en actifs nets positifs, mais beaucoup moins qu'on ne l'était il y a 10 ans. Et c'est ça qui est une source de préoccupation.
Est-ce que tout ça ne rend pas un petit peu superficiel, finalement, Benjamin Lemoine, les chiffres qui peuvent être donnés en disant bah voilà, il ne faut surtout pas dépasser tel seuil, parce qu'au-delà de tel seuil, ce sera catastrophique. Je rappelle donc le traité budgétaire européen négocié en 2011, mis en place à partir de 2012, c'est de dire il ne faut pas que la dette des États dépasse 60% de leur richesse intérieure. Il y a eu même...
Plus vieux que ça, mais enfin bon, les 60%. C'est pas grave.
Mais... Oui, enfin, en tout cas, inscrit dans le traité budgétaire, voilà, ça a été à ce moment-là. On voit bien qu'on est très largement au-dessus de ce seuil. Il y a très peu de pays, finalement, qui respectent cette limite. Et finalement, il ne se passe pas non plus de catastrophe absolue. En tout cas, on ne vit pas moins bien qu'il y a 10 ans.
Mais je pense qu'à l'époque, les 60%, effectivement, c'était purement conventionnel. Ça correspondait à la moyenne globale de l'endettement public de la France et de l'Allemagne. Et puis, du coup, on a sorti ce chiffre parce que ça permettait une qualification à l'euro assez facile. Je pense que derrière chaque chiffrage, il y a effectivement une convention. Typiquement, la dette qui est sans cesse chiffrée, le chiffre officiel que la France envoie à Bruxelles, c'est celui de la dette brute. Et par exemple, en 2005, au moment de la sortie du rapport Pébro, il y avait une levée de boucliers d'économistes qu'on appelait keynésiens, les économistes de l'OFCE par exemple, qui s'étaient opposés au diagnostic de Michel Pébro, catastrophiste, qui expliquait que les générations futures étaient endettées, que tous les bébés allaient naître sur le paletot des milliards d'euros sur la tête. Et on avait mis en face les actifs de l'État en expliquant que la dépense publique n'était pas qu'une accumulation de passifs, qu'elle pouvait être productive, qu'elle pouvait aussi nourrir la croissance de demain. Et je le disais un peu en début d'émission, je pense que le débat public a été forcé de s'enrichir avec les événements. Le cas de la Grèce, je veux dire, est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a eu l'élection d'un gouvernement radical qui proposait d'entamer un programme de politique publique hétérodoxe qui ne convenait pas, qui ne satisfaisait pas aux exigences de la zone euro. Et on a bien vu ce qui s'est passé ensuite. C'est bien la contrainte de la dette, ou en tout cas la contrainte des finances publiques et le poids de la Troïka qui a imposé un revirement complet de programme politique. Donc, je suis d'accord avec vous. On est peut-être un peu tôt encore dans la campagne électorale pour dire que la dette a disparu du paysage. Il faudra voir comment se profile progressivement le rôle des experts qui vont quantifier les programmes politiques, qui vont nous expliquer quels sont les bons ou les mauvais programmes en fonction du poids des dépenses publiques prévues dans ces différents programmes.
Mais finalement, ce que je comprends dans ce que vous dites, Benjamin Lemoine, c'est que c'est moins finalement le poids de la dette qui est important que la façon dont on se sert de ce niveau de la dette pour mener des politiques publiques et monétaires derrière.
Absolument, je veux dire, c'est la dette publique est devenue un argument pour empêcher ou permettre des choses. Je veux dire, ça fonctionne comme un mur vis-à-vis duquel on doit se positionner. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles, mais encore une fois, c'est quelque chose qui peut fluctuer. Et ce qui est décisif, c'est est-ce qu'on réfléchit son action politique en fonction de cette contrainte ou pas, ou est-ce qu'on pense qu'on peut effectivement la dépasser, soit en mettant en place d'autres modes de financement des trésors à l'échelle de la Banque Centrale Européenne, ou qu'on considère que la croissance future permettra d'alléger ce fardeau. Et je pense que c'est vraiment central. La question de la présentation de la dette est centrale. Je veux dire, la manière dont on fait de la pédagogie sur la dette publique est très importante. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire l'État est en faillite. On va dire non, l'État peut faire défaut. Il peut refuser de payer un certain nombre d'engagements à ses créanciers, mais il ne fermera pas les portes du jour au lendemain et il ne virera pas l'ensemble de ses fonctionnaires. Tout ça, ce sont des nuances qui sont intervenues dans le débat et qui, je pense, sont quelque chose de positif pour les discussions autour de la dette publique.
Guillaume Duval.
Oui, plusieurs choses. D'abord, ce qu'a pu dire Denis Ferrand sur l'aspect dette brute et dette nette, c'est quelque chose qui est important, qui est compliqué à comprendre, mais le fait d'avoir inscrit dans les traités cette dimension de dette brute est une stupidité sur le plan économique, c'est pas ça qui vaut vraiment. Et sur ce plan-là, il y a quand même une spécificité française, c'est-à-dire que l'État français, par rapport aux autres, la plupart des autres États européens, est un de ceux qui a le plus d'actifs. Le plus d'immobilier, mais aussi le plus de participation dans des entreprises, etc. Donc, en termes d'endettement net de l'État français, la situation n'est pas celle qu'on décrit avec un État français plus endetté que les autres. Ça, c'est inexact. Après, que la dette, que l'endettement de l'État serve à la croissance future, oui, d'accord, c'est vrai. Mais si c'est vrai et si ça marche, ça doit se traduire par un recul du niveau de cet endettement. C'est-à-dire que la croissance supplémentaire, puisqu'on la rapporte au PIB, doit permettre de faire que cet endettement recule. Ce qu'on constate jusqu'ici, c'est que ce n'est pas le cas. Donc il y a des questions à se poser sur la nature de ce qu'on fait avec cet endettement. Et sur ce plan-là, la dernière chose que je voulais dire, si vous me permettez, c'est que une des choses qui fait que ce n'est pas le cas, c'est que, sur la dernière période en tout cas, c'est que François Hollande a voulu réduire trop vite les déficits publics. Si vous voulez, la dette publique recule par rapport au PIB quand il y a un peu d'inflation et quand il y a un peu de croissance dans l'économie. Le problème qu'il y a, c'est que les politiques européennes telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles sont appliquées en France très très strictement par François Hollande consistent à maintenir l'économie européenne au bord de la déflation et à la maintenir en permanence au bord de la stagnation. On y retombe là aujourd'hui. Ce qui interdit de réduire l'endettement. Pour réduire l'endettement, il faut avoir des politiques qui soient favorables à la croissance économique et qui laissent un peu d'espace à un peu d'inflation. C'est notamment pour ça qu'il ne faut pas avoir des politiques qui cherchent à faire baisser le coût du travail en permanence partout en Europe.
Mais est-ce que l'endettement, ça ne constitue pas justement une politique économique aujourd'hui, Denis Ferrand ?
Oui, c'est d'ailleurs ce que dit le FMI par certains aspects. Quand on écoute le chiffre que vous avez rappelé, le 152 000 milliards dont le FMI s'est ému, 152 000 milliards de dettes à l'échelle mondiale, qui est à la fois de la dette privée, de la dette publique, en fait on mélange un peu tout hein, dans cet ensemble.
Du coup on ne comprend pas très bien d'ailleurs à quoi ça correspond finalement.
Oui, exactement, en fait on est sur des masses, bon évidemment donc c'est à l'échelle mondiale, et vous avez le FMI qui s'alarme beaucoup de l'augmentation de l'endettement chinois, c'est vrai qu'il porte en germe un risque de déstabilisation financière très élevé. Mais quelle réponse est-ce que l'on a face à cette accumulation de dettes ? Eh bien, on est un peu dans le registre de la fuite en avant, qui consiste à dire, eh bien, faisons aujourd'hui un gros programme de relance à l'échelle mondiale qui va justement créer encore un petit peu plus de dettes, qui va créer peut-être du transfert de la dette privée vers de la dette publique, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir d'un registre autre que celui de la dette pour essayer de retrouver des leviers de croissance. C'est un peu un déficit d'imagination. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement où la force de rappel, ce qui est vraiment fondamental depuis 2005, ce qui a fondamentalement changé, c'est vraiment le fait que la force de rappel liée à la dette a disparu. C'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, on a une dette qui, en masse, en montant absolu, est supérieure de 900 milliards à ce qu'elle était en 2005. Combien est-ce que l'on paye en intérêt ? On paye 3 milliards d'euros de moins chaque année en intérêt par rapport à la situation de 2005. On a quasiment doublé le montant de la dette et on paye moins cher. Donc la force de rappel ne joue plus. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi rentré dans le registre de la fuite en avant, dont le dernier avatar est évidemment l'achat de dette publique par la BCE, dont on ne voit pas très bien quelle est l'issue et sur laquelle eh bien, on sait qu'on va devoir marcher à pas extrêmement compter.
Mais en même temps, Denis Ferrand, si le poids de la dette est moins important qu'il ne l'était en 2005, pourquoi s'inquiéter finalement autant s'endetter, profiter de cet argent qui n'est pas cher pour essayer de relancer l'économie ? Mais peut-être allez-vous nous dire que ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait ?
Il faut vraiment prendre le point que l'on évoquait tout à l'heure avec Guillaume. C'est le fait que faire de la dette pour faire de la dette n'a aucun sens. Faire de la dette pour donner des conditions de la croissance, ça a un sens. Faire de la dette pour fabriquer des actifs qui seront générateurs d'activité, ça a un sens. Si on fait de la dette pour financer des dépenses courantes, là, en revanche, on sort de l'épuisement.
Mais ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas. C'est-à-dire que il n'y a pas que le béton qui fait de la croissance future. Et même au contraire, on peut penser que beaucoup de béton est plutôt nuisible pour la croissance aujourd'hui. La distinction entre dépenses courantes et pas courantes pour l'État n'a pas de sens. C'est-à-dire que les dépenses de recherche, les dépenses d'éducation sont des dépenses courantes pour l'essentiel.
Ce sont des dépenses d'investissement. Les dépenses de R&D sont des dépenses d'investissement.
Oui.
L'éducation nationale n'est pas dans l'investissement.
Les dépenses d'éducation, les dépenses de santé sont pour l'essentiel des dépenses de salaire pour les personnels du public. Et donc, l'investissement pour l'État, c'est créer les conditions pour l'économie dans son ensemble de mieux fonctionner demain et d'avoir plus d'activité. Par exemple, la France est un pays qui dépense une fois et demie moins que l'Allemagne pour ses tribunaux, pour sa justice. Je ne sais pas qui est-ce qui, dans ce pays, peut considérer que c'est un avantage compétitif pour la France de faire des économies sur la justice. C'est une des raisons qui fait que la justice fonctionne très mal chez nous. Et dans une économie de marché, avoir une justice qui fonctionne bien et vite, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, et là, c'est vraiment des dépenses de fonctionnement aussi. Donc, cette distinction n'a pas de sens. Il faut des dépenses publiques importantes, il faut des dépenses publiques de plus en plus importantes, parce que dans des sociétés complexes comme les nôtres, il y a de plus en plus de division du travail, et comme il y a de plus en plus de division du travail, il y a de plus en plus de gens et de structures qui interviennent pour produire des biens et des services, et dans un contexte comme ça, il faut de plus en plus de ce que les économistes appellent des biens communs, c'est-à-dire des choses qui soient présentes partout dans l'économie et dans la société pour que ça fonctionne bien. Et ça, on ne sait pas le faire autrement qu'avec des dépenses publiques. Donc le sujet, pour moi, c'est pas de réduire les dépenses publiques pour réduire la dette, ça c'est se tirer une balle dans le pied.
Est-ce que ça serait alors pour vous, Guillaume Duval, est-ce que ça serait faire de la dette, s'endetter pour justement pour alimenter ces dépenses publiques?
Non, mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est surtout de boucher le trou par les prélèvements. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on n'a pas réussi à le faire à cause de la question des paradis fiscaux. On est en train de régler la question des paradis fiscaux. C'était pas difficile, il suffisait de le vouloir pour les grands États, mais on est en train de le régler. Et c'est le moment où maintenant on nous dit il faut abaisser à nouveau les impôts sur les riches, abaisser à nouveau les impôts sur les entreprises, alors que justement on a créé les conditions pour qu'on n'en ait plus besoin de le faire. C'est le moment de boucher le trou de cette façon-là.
Bon, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre Benjamin Lemoine. En tout cas, on a trop voulu prendre cette question de la dette uniquement sous son angle budgétaire et on l'a sorti. Alors c'est privé peut-être d'autres leviers pour essayer de réduire cette dette.
Absolument. Et puis juste pour nuancer sur le fait de vous expliquer clairement que les taux sont bas, pourquoi pas en profiter? Il y a quelque chose de très intéressant. Au printemps 2016, une mission d'enquête et de contrôle au Parlement, à l'Assemblée nationale, a été conduite et a été auditionné M. Michel Sapin. Et les députés étaient très surpris de savoir que le Trésor n'allait pas emprunter plus que prévu pour profiter de cette manne de taux d'intérêt. Et la réponse du ministre et du personnel du Trésor était « il ne faut pas scier la branche sur laquelle on repose et il ne faudrait pas écœurer la demande de titre d'État car le monde obligataire vote avec ses pieds hein. ». C'est-à-dire que ceux qui achètent la dette, c'est pas comme des actionnaires, ils n'ont pas de droit de vote, mais néanmoins ils peuvent cesser d'en souscrire. Et je pense que ce problème-là, il est structurel, si vous voulez, et que cette affaire de taux négatif ou de taux très faible, hein, quoique lorsqu'on monte le long de la courbe, il reprogresse un peu par rapport à l'inflation, hein, notamment sur 50 ans, il est totalement conjoncturel. Et je pense que si on veut un débat sur la dette publique, il faut s'intéresser sur les structures, au sens de structures sociales. Le dernier point, c'est, je souscris tout à fait à ce que disait Guillaume Duval, sur les structures sociales de l'endettement, il y a bien un choix qui est comment finance-t-on la dépense publique? Est-ce qu'on la finance par l'impôt ou par l'emprunt? Et le fait d'avoir recours à l'endettement n'est pas neutre. Il n'est pas neutre parce que effectivement, ce sont plutôt que de faire de la fiscalité sur les gros patrimoines, on leur emprunte de l'argent et ils seront rémunérés par des taux qui éventuellement remonteront. Par ailleurs, lorsqu'on s'endette sur les marchés de capitaux internationaux, l'État, pour vendre sa dette, il vend aussi des promesses politiques d'avenir. Hein. Il vend une série de politiques publiques. Il vend le fait que les banques centrales resteront indépendantes, qu'il n'y aura pas de financement direct, que l'inflation sera contenue, que le coût du travail sera baissé, que la France sera un bon lieu d'investissement. Et je pense que là, il y a quelque chose à mettre sur la place publique, c'est que dans ce choix de la dette qui n'est pas neutre, comme instrument de financement de l'État, il faut évoquer l'ensemble des contreparties, hein, souvent implicites, souvent peu mises dans le débat public, qui sont attachées à ce financement par l'emprunt sur les marchés financiers.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qui se soucie encore de la dette? C'est la question que nous posons ce soir à Guillaume Duval, à Benjamin Lemoine et à Denis Ferrand. Denis Ferrand, je voudrais qu'on s'arrête un instant, même si ça a déjà été évoqué, sur cette question des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas aujourd'hui, qui permettent, alors je caricature un peu, mais d'emprunter de l'argent facilement, donc qui permettent un endettement beaucoup plus facile et qui semble peut-être moins nocif, en tout cas à court terme. Bon, à un moment donné, ces taux d'intérêt vont bien finir par remonter. Est-ce que le fait que les taux d'intérêt soient à l'avenir orientés à la hausse, ça risque de remettre la question de la dette et notamment de la dette publique au devant d'une actualité un petit peu compliquée, parce que qu'on reparlera à nouveau de défauts de paiement, de possibles faillites, de crises, je ne sais quoi encore.
Il y a deux temps peut-être pour distinguer, pour répondre à votre question. Il y a déjà le premier temps qui est le temps immédiat. En même temps que la charge d'intérêt est plutôt en diminution pour notamment l'État du fait de taux d'intérêt qui sont très bas, c'est aussi la rémunération des emprunteurs qui n'est pas au rendez-vous. Donc c'est aussi des recettes qui ne sont plus dans les comptes d'exploitation de ceux qui prêtent. Ça va être on a une véritable redistribution qui s'effectue aujourd'hui au détriment
des banques, prêteurs. C'est ça.
Des banques, mais également des détenteurs. Enfin, quand vous n'avez plus la rémunération sur votre contrat d'assurance vie que vous escomptiez, c'est aussi parce que le rendement des taux d'intérêt, le rendement des titres obligataires est aussi beaucoup plus faible. Donc, c'est pas seulement les banques, mais c'est à la fin le prêteur en dernier ressort, même si on l'applique à la banque centrale, le prêteur en dernier ressort, ça reste quand même le ménage qui, lui, se retrouve avec un rendement de son épargne qui est effondré.
Donc le prêteur, il a intérêt à ce que les taux d'intérêt remontent.
Oui.
L'emprunteur, il y a moins intérêt.
À ce qu'il
et la dette, où est son intérêt?
Alors, c'est là que l'on vient justement sur le deuxième temps, le temps qui est celui un peu plus de la dynamique. Ce qui peut se passer aujourd'hui, je pense qu'on ne mesure pas assez, c'est exactement le point que vous évoquiez à l'instant, c'est le fait qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis, et on a, avec l'augmentation de la dette, une augmentation de ce que l'on met en danger, entre guillemets, chaque année. Par exemple, au moment du rapport Pébro, c'était en gros la dette à moyen long terme qui se renouvelait chaque année parce qu'elle vient à échéance. Et qu'est-ce que l'on fait? Une dette qui vient à échéance est en fait roulée. On la remplace par une nouvelle émission auquel vont souscrire les marchés. Cette dette qui était roulée, c'était en gros 4 points de PIB chaque année. En 2017-2019, on sera sur 6 points de PIB. Donc, vous mettez en danger sur un montant de plus en plus important au travers des mécanismes. Deuxième acteur qui, lui, peut prendre un risque très important au moment où il y a une remontée des taux qui peut se manifester, ce sont les acteurs qui possèdent des obligations. N'oublions pas que le prix des obligations évolue en sens inverse du taux des obligations. Donc quand le taux baisse, le prix des obligations augmente. Donc vous avez une augmentation, vous avez un bilan qui s'augmente pour les acteurs financiers. Mais le jour où les taux remonteront, à ce moment-là, vous avez un risque de bilan sur des acteurs du secteur financier qui ont déjà été fragilisés sur leurs comptes d'exploitation par le moindre rendement des taux.
Est-ce que du coup vous diriez, Denis Ferrand, qu'il faut profiter du fait que les taux d'intérêt soient bas pour diminuer le poids de la dette encore plus avant que justement qu'il ne remonte?
Il y a déjà un pilotage qui a été effectué, qui est un pilotage de jeu de maturité. Si ce que l'on peut faire pour repousser plus possible les échéances, et il y a des tentatives d'allongement de maturité, ça c'est vraiment pour gérer le problème présent. Maintenant, le problème présent, c'est quand même de sortir de cette situation où maintenant 10% de la dette publique est détenue par l'eurosystème, par la Banque Centrale Européenne, on va dire pour faire simple. 10%, c'était un acteur qui en mars 2015 n'avait pas un centime de dette publique dans son bilan. Donc on est dans une situation où au total on essaye de se refiler un peu le bon taux, et le risque il est désormais disséminé dans l'ensemble du secteur financier, y compris dans le véritable prêteur en dernier ressort qu'est la Banque Centrale.
Guillaume Duval, il y a des raisons d'être inquiet?
Oui, il y a pas mal de raisons d'être inquiet. Donc, Denis Ferrand en a cité quelques-unes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup dans la gauche de la gauche, et je pense que parmi les auditeurs de France Culture, il y en a beaucoup qui le pensent, que le problème, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le capital, il ne vaut rien, il ne coûte rien, il a jamais été aussi, enfin, son rendement a jamais été aussi bas du fait de la politique monétaire de la BCE. Et c'est vrai que pour certains acteurs, ça peut être un problème. C'est un problème aujourd'hui pour les retraités allemands, où la retraite par capitalisation avait pris un gros poids, et ça explique un peu l'attitude des Allemands sur ces questions-là. Donc ça peut être un problème. Simplement sur le jeu de l'État français, c'est un peu compliqué à expliquer à la radio, mais il joue déjà beaucoup là-dessus à travers ce qu'on appelle des primes d'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français émet sa dette à un taux d'intérêt qui est supérieur à celui du marché, ce qui fait que les acteurs de marché l'achètent à un prix qui est inférieur à celui qu'il aurait, c'est-à-dire quand il émet 100, il l'émet à 3% de taux d'intérêt, et comme ce n'est pas le prix du marché, les gens l'achètent à 70. Donc c'est la raison pour laquelle l'endettement français n'augmente pas chaque année autant qu'il devrait, entre guillemets, compte tenu du déficit public. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'État français joue déjà à plein là-dessus pour essayer de limiter l'endettement. Ça a comme effet, d'augmenter les paiements futurs par les futurs gouvernements sur la dette. Mais enfin, là-dessus, il joue bien le jeu. Mais je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez, enfin ce que disait Denis sur la BCE. Une des choses qu'on est en train de faire à travers la politique de la BCE, c'est qu'on est en train de mutualiser les dettes. Il ne faut pas le dire aux Allemands parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, mais c'est ce qui est en train de se faire en pratique. Le problème, c'est qu'on est en train de les mutualiser à un endroit qui risque d'être très embêtant dans le futur. On est en train de les mutualiser au sein du bilan de la BCE. Une des choses qu'il faudra faire en Europe pour un certain nombre de pays, mais pour la France aussi, je pense, c'est qu'il faudra à l'avenir annuler une partie de ces dettes. Il faudra le faire pour la Grèce, c'est clair. Mais il faudra le faire aussi pour d'autres pays. Et le fait que ce soit accumulé de plus en plus aujourd'hui au sein du bilan de la BCE risque d'être un obstacle politique majeur dans le futur.
Parce que c'est pas plus simple, au contraire, justement, si c'est au sein de la BCE.
Il faudra à un moment le sortir du bilan de la BCE pour pouvoir le faire. Parce que sinon, ça fera faire des pertes à la BCE. Et ça, c'est politiquement très, très difficile et c'est interdit, normalement, d'après les traités, etc. Donc ça risque de nous créer un problème politique à terme, même si ça aide à résoudre nos problèmes politiques à court terme.
Benjamin Lemoine.
Moi, je voulais juste réagir sur l'idée du ménage, hein, ce ménage qui serait lésé parce que les taux d'intérêt ne rémunéraient plus son épargne. Lorsqu'on parle de dette publique, il faut quand même savoir qu'il s'agirait de voir quelle est vraiment la répartition sociale de ces ménages impactés ou non par les taux d'intérêt de la dette publique. Aujourd'hui, on sait que 35% des revenus des ménages ne leur permettent pas d'épargner, par exemple. Hein, 35% de ménages ne peuvent pas épargner. Donc, les ménages concernés de manière importante par les taux d'intérêt de la dette publique, c'est situé socialement. Hein. Ce n'est pas une classe universelle du ménage, tout bon père de famille qui détiendrait de la dette. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, la population qui a de l'investissement ou qui est concernée par ces taux d'intérêt plus ou moins faibles sont des patrimoines importants.
Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'endettement, il profite d'abord à ceux qui ont les moyens de s'endetter, qui ont de l'argent ?
Non. Oui, enfin, c'est ce que disait Guillaume Duval, c'est-à-dire que plutôt que de taxer, ces gens-là vont prêter et donc vont bénéficier de taux d'intérêt. Et donc, la figure du ménage qui détiendrait la dette publique, je pense qu'elle est fortement à nuancer du fait de l'intermédiation des marchés financiers et surtout du fait de ces inégalités sociales vis-à-vis de l'épargne.
Enfin, les 1%, ils ont surtout des actions et les niveaux de détention de l'assurance-vie sont quand même assez
larges. Ils placent leur patrimoine avec des sociétés de gestion qui, elles, investissent dans des obligations pour pouvoir faire d'autres opérations. Et la dette est au centre d'opérations financières plus juteuses par ailleurs.
Où est-ce que vous mettez dans cet ensemble, dans ce cas, où est-ce que vous mettez l'épargnant qui va avoir acheté, qui aura souscrit à des parts d'assurance-vie, par exemple, et qui constitue sa retraite sous cette forme, assurance-vie, qui investit en grande partie dans des titres publics et qui aujourd'hui ne rémunère plus grand-chose. Donc on a effectivement une redistribution qui s'installe. De fait, c'est une redistribution qui est non dite. On a le mécanisme premier de la redistribution qui est utilisé en France, c'est la redistribution au travers de l'impôt. Là, on est au travers d'un autre mode de redistribution qui intervient par le jeu des taux d'intérêt.
C'est l'euthanasie des rentiers qui revient, mais par le jeu des taux d'intérêt.
Elle est conjoncturelle, encore une fois.
Au moment de la crise de 2008-2009, il y avait eu un moment cette idée qui était sortie notamment auprès du FMI, qui était l'idée de faire un haircut, de faire une tonsure et de prendre 5% de l'épargne pour pouvoir éponger une partie de la dette. Cette proposition n'a évidemment pas passé le cap des manuels du FMI, mais d'une certaine manière, les taux d'intérêt réels, c'est une manière de pratiquer cette tonsure de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une perte de votre valeur en capital quand vous êtes un détenteur, sauf que là c'est quelque chose qui est absolument non dit, c'est quelque chose qui n'est pas assumé. Et tout à l'heure, effectivement, on sent qu'il y a eu du progrès dans le débat autour de la dette. Je pense qu'il y a cette dimension de mécanisme économique qui est associée au taux d'intérêt réel est aujourd'hui un enjeu d'explicitation très important.
Pour rester encore un instant avec vous, Denis Ferrand, sur ces progrès en termes de débat sur la question de la dette, est-ce que vous diriez que la crise des dettes souveraines en Europe a aussi permis ce progrès et d'être peut-être un petit peu moins manichéen dans l'approche de cette question?
Oui, clairement. Enfin, je pense que là, on a essayé de mettre en place des outils qui permettaient de contenir, de parler de cette mutualisation. Mais l'élément sur lequel on a le plus avancé, il me semble, hein, du point de vue de l'économiste, c'est celui qui a essayé de briser le lien entre les banques et les États. Ce qui est au cœur de la crise, notamment de la crise européenne de 2011-2012, c'est le fait que les États étant venus notamment au soutien des banques en 2008-2009, ils se sont retrouvés avec une dette publique importante. C'était le cas notamment de l'Espagne, c'était le cas en Irlande, c'était le cas en Grèce. Et en fait, toute la mise en place de l'union bancaire a visé à essayer de rompre ce lien entre État et système bancaire, en faisant en sorte que le système bancaire se dote de ses propres coussins amortisseurs.
Mais
en
ça, fait,
ce que l'on a avec Deutsche Bank, c'est précisément le risque que ce qui a été la principale avancée au cours de la crise, qui a été cette union bancaire, se retrouve déjà pris en défaut, se retrouve déjà acculé et ne se mettra pas véritablement en œuvre.
Benjamin Lemoine. Juste pour nuancer, sur l'enrichissement du débat, il faudrait peut-être pas trop s'emballer. Lorsqu'on regarde les plateaux de Laurent Ruquier, on a toujours un expert de l'équipe de journalistes qui vient vous dire « mais les caisses sont vides, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce que vous proposez est de la folie ». Donc il y a toujours quand même un sens commun de la dette publique qui s'impose, et peut-être que là on est dans une arène à France Culture de spécialistes, mais il faudrait peut-être ne pas oublier qu'il y a quand même un rouleau compresseur de la dette en tant que morale supérieure qui s'impose à tout le monde, et ce mur, il est pas encore dépassé, je pense, encore dans l'opinion publique et dans la manière dont les journalistes, d'une façon générale, s'intéressent au sujet.
Un des mantras, en tout cas, pendant cette crise des dettes souveraines en Europe, c'était notamment de dire, alors même si ça n'était pas toujours affiché de cette manière, il faut faire de l'austérité budgétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la preuve que que ça ne marche pas, que ça marche, que des fois ça marche, que d'autres fois ça ne fonctionne pas, Benjamin Lemoine ?
Je pense qu'on a la preuve que ça ne marche pas, ça c'est évident. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un jeu sur le lexique. Alors on n'est pas en période d'austérité. Effectivement, François Hollande a parlé d'un pacte de sécurité qui était supérieur au pacte de stabilité, mais ça ne concerne que les dépenses de sécurité. Hein, sur l'éducation, sur l'hôpital, ce que pointait Guillaume Duval, sont toujours des institutions fragilisées financièrement, ne serait-ce que l'université, l'éducation. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver du papier dans les universités. Donc la contrainte de financement s'impose encore à l'ensemble de l'appareil d'État, à l'ensemble de l'appareil de la dépense publique. Et pour déverrouiller cette contrainte de financement, je pense qu'il faut effectivement remettre en débat les problèmes monétaires, les problèmes de financement de l'État à l'échelle européenne, sur la place publique, pour les prochaines campagnes.
Bah finalement, ce qui ressort beaucoup de cette discussion, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes et qu'on ne peut pas dire que l'austérité budgétaire, ça va permettre de régler la question de la dette, mais que l'endettement, ça ne va pas non plus favoriser la reprise de l'activité économique. Il faut quoi alors, faire du cas par cas, Guillaume Duval, c'est ça le...
Non, je crois qu'il faut avoir simplement une politique rationnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cédé à des politiques irrationnelles. Le summum de l'irrationalité ayant été atteint, en particulier en Allemagne, où cette question de la dette et des finances publiques a été abordée d'une manière moralisatrice qui n'a rien à voir avec la réalité. Le problème, c'est que ça nous amène à mener des politiques stupides. Donc on a une politique monétaire qui est beaucoup trop laxiste aujourd'hui, qui aboutit aux résultats qu'on désignait tout à l'heure, et ça consiste à subventionner sur fonds publics quand même fondamentalement les spéculateurs et les banquiers, hein, on leur donne de l'argent pas cher, etc. Et parallèlement, on demande aux gens ordinaires de serrer très fort la ceinture en augmentant les impôts et en baissant les dépenses publiques. Et ça fonctionne pas sur le plan politique, c'est-à-dire que les gens n'y comprennent rien et ils trouvent ça complètement absurde et ils votent pour les eurosceptiques, mais ça fonctionne pas non plus sur le plan économique, parce que comme les gens ordinaires se serrent la ceinture, même s'il y a beaucoup d'argent qui est mis à disposition par la Banque centrale, en fait cet argent il ne sert qu'à spéculer, il n'est pas utilisé par les entreprises qui ne veulent pas investir puisque les gens ne consomment pas. Et donc ça ne fonctionne sur aucun plan. Les Allemands sont très critiques vis-à-vis de la politique de la BCE, je pense qu'ils ont raison, mais la seule solution c'est qu'ils acceptent d'être moins orthodoxes sur le plan budgétaire. On ne peut rééquilibrer les choses que si on est plus strict sur le plan monétaire en étant moins strict sur le plan budgétaire.
Bon, plutôt que de favoriser finalement les spéculateurs, Denis Ferrand, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser directement les consommateurs et leur distribuer directement de l'argent à eux?
Oui, avec l'hélicoptère monnaie. Alors là, c'est l'étape suivante dans la fuite en avant. Non, c'est vrai, pour faire écho à ce que dit Guillaume, avoir un pied de chaque côté du Rhin est quelque chose qui serait assez utile. Autant du côté allemand, on comprend parce qu'il y a une logique de contrat. On a quand même signé un traité européen dans lequel on avait un engagement sur la maîtrise de la dette. Il y a une logique de contrat et les contrats, ça parle en Allemagne. Et donc ça, c'est une dimension culturelle qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et il y a vraiment cette dimension. Donc il y a la dimension du contrat et du côté français, de l'autre côté du Rhin, il y a le côté un peu de la mitridatisation de la dette. C'est-à-dire qu'on s'est accoutumé à cette dette comme une drogue pour laquelle on paye de moins en moins le prix.
Voilà, plus on s'accoutume et plus on digère le fait d'avoir une dette importante. Vous parliez de l'hélicoptère monnaie. Je vous invite peut-être à regarder sur Internet. On va mettre un lien vers une explication de ce dont il s'agit.
Il y a un autre mot pour qualifier ça, c'est le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif pour le peuple. Donc, voilà. voilà. C'est un fléchage politique de la monnaie.
On donne directement des billets. Je crois qu'il y a notamment Jeremy Corbyn du Parti travailliste britannique qui était plutôt favorable à ça. Mais on n'a pas le temps d'expliquer plus en avant de quoi il s'agit. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Denis Ferrand, donc directeur général de COE Rexecode. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit.
C'est
oui,
parfait.
Merci. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives Économiques. Le dernier numéro en une, l'entreprise autrement, 10 exemples. Et puis Benjamin Lemoine, l'ordre de la dette, c'était publié à la découverte cette année. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, l'État doit-il abolir le couple? Ce sera une discussion entre Marcella Yacoub et Tugdual Derville.